Vous écoutez
RMC.
Ni Verratti dans cet exercice-là, ni Renato Sanchez.
Non, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça, c'est pour vous. Ça vous donne du pain à moudre là-dedans.
Franchement, je suis au courant de rien. C'est pas officiel, je crois. Donc, c'est encore des journalistes qui ont lancé ça, à mon avis, non ?
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Bienvenue dans l'after, tout le monde, en direct jusqu'à minuit, comme tous les soirs, et 24h sur 24 en podcast. L'équipe ce soir. Oui, j'ai dit podcast. Je vois ton petit sourire, Kevin Diaz, qui est resté. Et on accueille Lionel Charbonnier ce soir. Salut Lionel.
Salut messieurs, salut à tous.
Salut Lionel.
Quel match on a vécu, mon Lio, là. La Ligue 1, elle est là, ouais. La Ligue des talents ou pas?
Bah écoute, moi je la trouve de plus en plus belle, cette Ligue 1. Je me régale, franchement. Aujourd'hui, encore une belle journée. Les Parisiens qui vont... Ouais,
garde un peu sous le coude, tu vas me faire trois points dans quelques instants. Le LOSC qui s'impose ce soir, 3-1 au Roazhon Park face au Stade Rennais, un match pour l'Europe qui relance tout dans cette course à la 5e place et qui aura des conséquences même un peu plus haut au classement. On va débriefer ensemble ce match. Supporter Rennais, supporter Lillois, on vous attend au 32-16. N'hésitez pas dès maintenant, vous nous appelez et vous venez débattre avec l'after. Ça vient de se terminer à l'étranger. En Italie, Sassuolo a battu ce soir l'Atalanta 1-0 et puis en Espagne les dernières secondes. Là aussi d'un gros match entre le Betis et le Celta Vigo, 96e minute de jeu. 4-3 pour Celta Vigo face au Betis, réduit à 10. Au programme ce soir également, la victoire du Paris Saint-Germain contre Toulouse cet après-midi. 2-1 au Parc des Princes. On vous attend là aussi, Parisiens, Toulousains au 32-16. On en parlera dans une vingtaine de minutes environ. La victoire du PSG sans Neymar, sans Mbappé, avec une tactique tout pour Messi. C'est ce qu'a dit Galtier ce soir. On l'écoutera. C'est la bonne solution là, quelques jours de l'OM, quelques jours du Bayern, supporter parisien. On vous attend au 32-16. On débriefera également la victoire lyonnaise. 3-1 cet après-midi à 3. La jeunesse lyonnaise qui a brillé. Est-ce que c'est la solution? Les Lyonnais, je vous attends là aussi au 32-16. Et puis juste avant minuit, on prendra la direction de l'Angleterre. Grosse journée de Première Ligue avec la défaite d'Arsenal, la défaite également de Liverpool qui a pris 3-0 face à Wolverhampton. United a gagné avec Casemiro qui a fait un étranglement aujourd'hui. Voilà, donc il s'est passé beaucoup de choses. Julien Laurence sera là juste avant minuit pour nous expliquer tout ça. Sur tous ces sujets, on vous attend les gars. Le 32-16, Adriella au standard ce soir. Venez débattre avec l'after, vous nous appelez, vous commentez votre émission sur, vous le savez, les réseaux sociaux, Twitter, le hashtag RMC Live, sur les applis RMC, RMC Sport, le direct studio. Je vous lis. Allez, on commence tout de suite par le plus important.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Plus souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Les trois points de débat ce soir de Lionel et Kevin. Vas-y, Lionel.
Bah écoute, mon premier point sur les Lillois, sur le match qui vient de se terminer, je les voyais très mal embarqués au Roazhon Park. J'ai dit bon, ça va être compliqué pour les Lillois, et ils ont su fort bien réagir et ils relancent cette course à l'Europe. C'est très très bien pour notre championnat. Mon deuxième point sera sur les Lyonnais, qui me semblent sur une bonne progression dans la continuité de ce qu'ils avaient fait à Brest. Alors il y avait pas la victoire, il y avait du jeu qui était mieux, il y avait Lolo qui disait ouais c'est très bien. Bon, je m'étais un petit peu agacé en disant on a fait un 0-0, mais c'est bien le 0-0, le jeu est mieux. Puis là, ça progresse parce que non seulement il y a le jeu et on continue, et surtout il y a de la réalisation, du réalisme. Et puis mon troisième point, le PSG qui est en réaction au lieu d'être en action, là ça me fait peur.
Kevin, tes trois points.
Le premier point, c'est Lille qui fait plaisir à voir, hein, parce que c'est pas facile de se remettre d'une ouverture du score aussi rapide. On l'avait vu d'ailleurs face au Paris Saint-Germain au stade Pierre-Mauroy. Mais en tout cas, ce soir, ils se sont très bien remis petit à petit. Ils sont revenus dans le match en gardant leurs principes, et c'est au final fort logiquement qu'ils s'imposent. En deux, c'est Rennes. Rennes qui, comme le disait Xavier, enchaîne victoire et défaite depuis maintenant plusieurs matchs. Et donc, ils ont du mal à enchaîner. Et c'est une équipe quand même qui, pour moi, aura du mal à se remettre de l'absence de Martin Terrier. Et en 3, c'est le match du Paris Saint-Germain où on a vu une équipe se mettre au service de Messi. C'est peut-être la solution, mais j'ai envie d'avoir une petite pensée pour Renato Sanchez, parce qu'on disait que ça aurait pu être une solution, mais malheureusement, une nouvelle fois, il se blesse. Et le voir sortir du terrain en larmes, ça fait jamais plaisir.
Dans un instant, on commence le débrief de cette victoire lilloise ce soir à Rennes, 3-1, 32-16, Lillois et Rennais, on vous attend au standard. Mais d'abord, le direct. Le rugby, c'est terminé pour ce dernier match du jour de la 17e journée de Top 14. Ça a été serré jusqu'à jusqu'au bout entre Montpellier et Toulon, Julien Landry.
Ouais, les Toulonnais ont résisté. Ils ont défendu fort pendant les trois dernières minutes sans se mettre à la faute, sans avoir une pénalité pour les Montpellierains. Une pénalité qui aurait pu offrir la victoire au MHR, qui s'incline pour la troisième fois de la saison déjà à domicile. Victoire du RCT 20-18 ce soir sur la pelouse montpelliéraine.
Merci Julien. Bonne soirée à toi et à très vite. Toujours pas terminé entre le Betis et Celta Vigo. Hein. 99e minute de jeu, toujours 4-3 pour le Celta Vigo. Et puis juste avant de démarrer cet after, ce débrief foot, je voudrais quand même saluer l'un de nos membres, l'un de nos afteriens, qui a beaucoup parlé. Il nous a fait peur, il a ouvert grand sa bouche, comme on dit. Mais il avait raison, parce que Jonathan McCarty a gagné son combat, messieurs dames. Bravo Jo, si tu nous écoutes, tu sais que tu nous écoutes en podcast. Il était ce soir au Roizen Park d'ailleurs, hein. Ça se passait là-bas, la soirée combat à suivre sur la chaîne Twitch RMC Sport toute la nuit là. Clé de bras en moins d'une minute dans son combat de MMA, Jonathan McCarty. Donc
un Joe Mac affûté et précis. Il avait dit en 10 secondes, je crois, par étranglement en souriant. Ouais. Mais du coup, ça a été en une minute par clé de bras. Donc bravo à lui.
Bravo à Jonathan McCarty, qu'on respectera désormais un peu plus, je vous le dis, dans l'after, rapport au fait.
Vaut mieux lui devoir une volée que ce soit lui qui nous en doit une.
Ouais, voilà. Exactement. Lille-Rennes, donc, la victoire ce soir dans ce match à l'Europe qui a tenu toutes ses promesses. On en parlait tout à l'heure rapidement. Il y a eu deux périodes quand même assez distinctes, les gars. La première pour les Rennais qui menaient 1-0 à la pause, hein, qui s'incline finalement 3-1. Et puis la deuxième, largement à l'avantage des Lillois. La réaction est assez incroyable et au final on retiendra de ce match, Lio et Kevin, la domination lilloise. Pourtant, vraiment, ils partaient de loin en première période quand même.
Oui, c'est vrai qu'ils partaient de très loin. Après, quand tu, après quelques secondes de jeu, t'as ton jeune défenseur qui rate son contrôle sur une passe d'André Gomes un peu puissante, et derrière ça fait l'ouverture du score pour les Rennais. Mais derrière, petit à petit, ils ont gardé leur principe de jeu, ils ont continué à repartir de derrière, à prendre des risques, et finalement c'est en deuxième mi-temps qu'ils ont réussi à profiter de leur travail, parce que les Rennais ont un peu baissé d'intensité, et là les Lillois, eux, ont réussi à accélérer, et par les changements ils ont même fait la différence en fin de match. Donc bravo, parce que c'est une équipe, moi, qui me plaît depuis le début. On voit aussi de belles images que moi j'aime beaucoup, avec l'entraîneur qui va fêter avec ses joueurs, alors sans traverser le terrain, mais on voit les joueurs qui viennent vers le banc, on voit une cohésion et surtout un soulagement pour cette équipe. Et donc bravo à Fonseca, bravo à ces Lillois, parce que c'est mérité.
Et au classement, c'était un match important, hein. Rennes 5e avec 40 points, Lille 6e avec 38 points. Désormais, c'était un match à 6 points pour cette 5e place qualificative pour la Coupe d'Europe. À la mi-temps, il y avait 8 points d'écart, mais voilà, ce soir à la fin du match,
ça relance tout.
Il y en a que deux. Dimitri, supporter du LOSC, qui est avec nous au 32-16. Salut Dimitri.
Bonsoir messieurs, bonsoir Kevin.
Oh, il est
bonsoir.
Content Dimitri.
Ouais. On très content. On dit
je pense. Ouais, on dit parfois que Dimitri. Le sourire s'entend dans la voix. Effectivement, on entend ton sourire. J'imagine qu'à la mi-temps, t'avais pas la même voix, Dimitri.
Non, j'avais pas la même voix. Non, je parlais pas trop. J'avais la tête dans le seau. En plus, ils étaient à 8 points, donc je disais que bon, là, c'était fini. C'est finito. Et là, c'est vrai que je revois le but d'André Gomes devant. Là, je suis fou. Faut plus jamais me dire que la Liga, on s'ennuie devant la Liga, parce que c'est pas vrai. Voilà, ouais. c'est pas vrai.
Est-ce que ce match peut être un tournant pour le LOSC? On le dit depuis le début de la saison. Kevin l'a souvent rappelé pendant le direct. Une équipe qui joue bien au ballon, qui est l'une des équipes qui joue le mieux probablement, mais gros problème d'efficacité devant et derrière d'ailleurs également. Est-ce que tu penses que ce soir, cette victoire à Rennes, ça peut être enfin le tournant et finalement enfin concrétiser ce qu'on voit dans le jeu par des buts et des points au final?
Mais c'est possible, mais après on se disait aussi la même chose quand on a gagné 5-1 contre 3. On se disait la même chose, finalement tu fais 0-0 contre Clermont, puis tu perds à Nice aussi avec toujours les mêmes problèmes. On a eu les mêmes problèmes en première mi-temps, là ça a tourné en notre faveur sur la deuxième mi-temps. Maintenant j'espère que ça va tourner encore en notre faveur sur les prochains matchs, parce qu'en soi il reste encore beaucoup beaucoup de matchs. On a l'impression qu'il en reste pas beaucoup parce qu'il y a eu cette Coupe du Monde, mais en soi il en reste beaucoup. Donc tout est possible encore, on se rapproche de Rennes, de Monaco, je pense qu'on va se battre pour l'Europa League et la Conference League, je pense pas plus, parce que je pense que les trois de devant, ils ont verrouillé le podium, après on sait jamais, mais j'espère, mais je vais pas dire que c'est catégorique, parce que comme je t'ai dit, voilà, quand contre trois, on disait tous la même chose, et finalement on a eu les mêmes problèmes après, donc voilà, on va savourer, et on verra sur le prochain match. Déjà on joue contre Lyon, mercredi en coupe je crois. Donc on verra ça sur ce match-là. Je pense qu'il va faire un petit peu tourner, mais pas trop, puisque la coupe, c'est aussi un des chiffres pour le coach.
Le 8e de finale, mercredi à 18h15, et puis tu auras un mois de février important, hein, puisque après tu reçois Strasbourg, et puis il y a le déplacement au Paris Saint-Germain le 19 février, dans 15 jours. Ouais, Lionel.
Ouais, je voulais te poser une petite question. Juste savoir, quand on est supporter comme ça lillois, est-ce qu'il y a des très bons souvenirs de l'époque Galtier qui reviennent à la fin d'un match comme ça et qui vous laisse espérer, en oubliant le début de saison, mais là, juste là, à l'instant T, quand tu finis ce match-là, est-ce que tu dis, ah, on est en train de revivre la même fin de saison qu'on a pu vivre avec Galtier, ou c'est encore loin?
C'est une bonne question que tu me poses, parce que je sais pas si vous vous rappelez, en fait, la saison du Covid, peut-être que Kevin, il va s'en rappeler, parce que je me rappelle qu'à cette époque-là, il disait attention à Lille qui remonte. L'époque du Covid, on remonte petit à petit, on grappille des points sur Marseille, qui était deuxième, qui était en train de dégringoler avec Villas-Boas. On remontait, on était à 4 points, et là, bim, le Covid. Ça ressemble un petit peu à ça. On commençait à remonter un petit peu comme ça. Maintenant, j'espère qu'on va remonter, qu'il n'y aura pas de Covid.
Ouais.
Mais c'est vrai, c'est une bonne question, Lionel. C'est vrai, ça ressemble un petit peu. Après, dans le jeu, il n'y a rien à voir, mais oui, en termes d'émotion, c'est la même chose.
Ouais. Oui, je parle des émotions, hein, supporter.
Sur ce jeu, qu'est-ce qui a changé à la pause, les gars? Parce que en première période, vraiment, c'était le LOSC, c'était syndrome vraiment du LOSC de début de saison, avec des occasions
grosses, ils sont plus lâchés, je trouve.
Ce qui a changé, c'est que tout simplement ils ont réussi à être enfin décisifs dans les 20 derniers mètres, avec un Zegrova qui après avoir raté une énième occasion avec ce lob tenté sur Stéphane Mandanda, derrière il y a cette prise de risque sur le côté gauche et de la présence dans la surface, ce geste génial aussi d'André Gomes pour cette talonnade qui dévie juste ce qu'il faut pour Zegrova, qui se pose pas de questions et qui finit. Et ensuite, voilà, ça a été le déclic pour cette équipe qui a bien vu que son adversaire était dans un temps faible et avait du mal à remettre de l'intensité. Et donc, les Lillois en ont profité pour aussi sous l'impulsion des changements et notamment d'un bon Rémi Cabella pour bien finir ce match. Mais le football, ça joue pas à grand chose. Il y a cette imprévisibilité que tu retrouves dans la vie. D'ailleurs, j'ai lu ça cette semaine et je suis complètement d'accord. Et encore une fois, dans ce match, ça a été des petits détails qui ont fait switcher la rencontre.
Excuse-moi, vous êtes Kevin Diaz ou vous êtes Thibault Leplat?
On essaye.
Et Dimitri, dans la remontée que tu espères, que tu appelles de tes voeux, est-ce que cette remontée pourra se faire avec Jonathan David devant?
T'as dit quoi, Thibaut?
Moi, je le vois encore généreux, courir, faire beaucoup d'efforts, mais être très très maladroit. T'en penses quoi, toi?
Oui, mais moi, je le trouve maladroit et je le trouve meilleur en 10. Alors, je vais juste te répondre à ça, mais je voulais juste rajouter à ce qu'avait dit Kevin. Pardonnez-moi. Mais j'ai trouvé aussi le pressing qui a beaucoup changé en première mi-temps. Le pressing était très mal fait de la part des Lillois, je trouvais. C'était bien fait devant, derrière, ça suivait pas, il y avait des trous. Et en deuxième mi-temps, c'est là que j'ai vu la grosse, grosse différence, c'est que le pressing était fait par tous les joueurs et il était très bien coordonné, et à la différence des Rennais. Ensuite, par rapport à ta question, moi, je trouve David bien meilleur en 10, en 9,5 quand il est avec un attaquant. Voilà. C'était son poste quand il était à la Gantoise. C'est comme ça qu'on l'a recruté. Il a dû se former à un nouveau poste, donc ce poste de numéro 9. Et c'est vrai que moi, je trouve meilleur quand il est libre, quand il peut bouger, quand il n'a pas de zone attribuée à ce joueur-là. Il est meilleur. Il est meilleur quand il est libre et quand il peut aller où il veut.
Oui. D'ailleurs, là, il était en pointe, hein, avec Angel Gomes derrière lui, qui fait pas son meilleur match non plus en 10. En fait, il y a peut-être là-dessus.
Ouais, mais il y a un débat, en fait, au niveau des supporters lillois, parce qu'il y a beaucoup qui disent que finalement Angel Gomes est peut-être meilleur en 8. Je sais pas si vous vous rappelez, au début de saison, on a commencé la saison avec Benjamin André et Angel Gomes, et Angel Gomes faisait ses meilleurs matchs. Et c'est vrai que moi aussi, je le trouve meilleur en 8. Le problème, c'est que derrière, t'as André Gomes. Là, on peut peut-être parler de son match, parce que c'est quelque chose, moi, ça m'a rappelé son début de carrière à Valence. C'est ça, faut se rappeler quand même qu'André Gomes, c'était un des plus gros cracks, je vais pas dire mondial, mais en tout cas, c'était un sacré prospect quand il était à Valence, quand il part à Barcelone, c'était quand même un sacré joueur. Et là, on le retrouve petit à petit, et ça fait du bien. Et quand il fait des matchs comme ça, on se dit qu'il a rien à faire à Lille. Mais le problème, c'est
que... Ouais, après, bon, en fin de carrière, ou dans la dernière partie de sa carrière, avec un entraîneur qui le connaît, qui a la même nationalité pour encadrer des jeunes, honnêtement, c'était vraiment une énorme pioche. Et fallait aller chercher, parce que c'est vrai, quand on l'a vu ces dernières années, malheureusement, après sa grosse blessure avec Everton, il a eu beaucoup de mal à retrouver son niveau, ce qu'on peut comprendre. Mais il fait vraiment une bonne saison dans l'ensemble, et encore une fois, un gros match avec un but qui est quand même splendide.
Après, Thibaut, ça c'est mon appréciation personnelle, pour répondre à ta question d'un Lille complètement différent entre la première et la deuxième mi-temps. C'est-à-dire que première mi-temps, tu perds 1-0, t'arrives en deuxième mi-temps, à la limite, des fois, tu prends un but et ça te libère. T'as moins de pression et tu dis là, on n'a plus rien à perdre. Et on a trouvé j'ai trouvé des Lillois qui se laissaient beaucoup plus aller, qui tentaient, Kevin l'a dit, qui tentaient des choses qu'ils n'avaient pas tentées en première mi-temps. Et c'est quand tu tentes ces chances, ces choses-là sans te poser la question et avec même beaucoup plus de détermination, parce que tu te dis il faut absolument, je vais la mettre, ça va réussir et tout, parce que t'as plus rien à perdre quand t'es relâché comme ça. C'est là qu'arrivent les bonnes choses, et c'est cette mentalité là de deuxième mi-temps qu'il faut que les Lillois, et c'est pour ça qu'on dit souvent les victoires appellent les victoires, parce que quand t'es dans cet état d'esprit, eh ben t'as plus grand chose qui t'échappe. Tu tentes des trucs, en veux-tu en voilà, tout réussit. Le plus compliqué, c'est de garder en tête la deuxième mi-temps et de recommencer le prochain match avec cette deuxième mi-temps en tête, et puis que ça perdure. C'est ça le plus dur. Mais je trouve que la deuxième mi-temps, ils ont été vraiment libérés, et c'est ce qui les a fait gagner ce soir.
Merci Dimitri en tout cas d'être passé ce soir dans l'after. Tu reviens quand tu veux.
Salut Dimitri.
Je peux juste passer un petit truc.
Bah avec plaisir, vas-y Dimitri.
Alors, on a un compte basé sur la Ligue 1 qui s'appelle Farmers League sur Twitter. Voilà, on a un space qui est prévu jeudi avec Franck Plaine, un préparateur physique de Troyes, qui va être tourné autour de la formation en France comparée à l'étranger et les spécificités de la formation quand on est dans un club. City Football Group, ça serait génial d'avoir Kevin Diaz. Si c'est possible que tu sois avec nous, ça serait génial, on serait très contents.
C'est à quelle heure?
Ça dépend si tu fais l'after, ouais, c'est ça le truc. C'est 21h30.
Non, 21h30, demain, je suis à l'antenne, hein, désolé.
Non, c'est jeudi prochain.
Jeudi? Ah. Jeudi, faudra que je vois sur le planning.
Voilà, j'allais dire, faut vite trouver une autre excuse, mais du coup. Dimitri.
Le soir, je t'avoue, Dimitri, que j'ai déjà pas mal d'activités entre mon équipe entraînée et l'after foot. Donc,
ouais. Puis on embrasse aussi ta famille.
Exactement.
Tu n'as pas pensé, mais heureusement, je suis là. Voilà. Si jamais tu as une dispo, Dimitri, laisse tes coordonnées à Adri au standard et on voit ça après, ok?
Ça serait génial.
Salut Dimitri. Merci pour l'invitation.
Quand tu veux. Bye bye Dimitri. 23h09, vous êtes dans l'after avec Kevin Diaz, avec Lionel Charbonnier, 32-16 hein, pour réagir. Gros after ce soir, supporters parisiens, toulousains. On vous attend au 32-16. On parlera également de l'OL qui s'est imposé 3-1 contre 3 aujourd'hui. On vous attend au 32-16. Attardons-nous, ouvrons le dossier Rennais, messieurs dames. Le stade Rennais qui menait donc 1-0 et qui s'incline. Écoutez Lio et Kevin, les performances du stade Rennais post-Coupe du Monde. Reprise contre Reims, défaite. La semaine d'après, ouais, Victoire contre Nice. Puis défaite à Clermont. Puis victoire face au PSG. Puis défaite à Lorient. Victoire contre Strasbourg. Défaite ce soir contre Lille. Inconstance incroyable pour cette équipe. Et on a Anthony qui nous a appelé au 32-16 et qui, je crois, sort du Roizen Park, c'est ça? Salut Anthony.
C'est bien ça. Bonsoir tout le monde. Salut l'équipe.
Salut Anthony.
On va passer ta meilleure soirée au stade, toi.
Alors non, j'ai pas passé ma meilleure soirée, non.
ça a été t'as pas été voir le combat de Jonathan McCarty avant le match?
Non, j'ai pas été. J'ai pas été. J'aurais aimé voir un combat ce soir aussi, mais malheureusement, j'en ai pas vu un. J'ai vu un bon premier quart d'heure de l'équipe rennaise. Et après, je suis totalement d'accord avec ce que Lionel a mis en avant tout à l'heure, c'est que les Lillois ont tenté, ont su se reprendre. Et ils méritent leur victoire amplement. Je pense qu'il n'y a pas. On n'a pas su les mettre en danger. Et j'écoutais Kevin juste avant qui disait également la même chose sur les Lillois. Une belle équipe de Lille. Jonathan David devant, c'est très très fort. Franchement, c'est très très fort. C'est un très bon joueur. Gomez aussi, il a fait un match. Pour moi, il a fait un match qui est super. Et les résultats sont comme l'équipe. On alterne le bon, le moins bon. Et il y a des attitudes moi que je trouve exécrables du côté du Stade Rennais vis-à-vis de certains joueurs, quoi.
Lesquels par exemple?
Jérémy Doku, je vais encore le pointer du doigt, mais je suis désolé, on lui demande de jouer 30 minutes dans sa semaine, de se donner à fond 30 minutes. C'est pas suffisant. Quand je vois un Spence qui vient d'arriver, qui se met au diapason, qui fait 85 minutes de haut niveau, et je vois Jérémy Doku qui est là, qui a 30 minutes, qui doit montrer des choses, parce que il doit l'y montrer. On lui donne du temps de jeu. Il n'y a pas de repli défensif. C'est fait au ralenti. Il n'y a pas de provocation. C'est compliqué. C'est compliqué, quoi. Et surtout qu'on a beaucoup d'absents. Donc, on a besoin de ces joueurs-là qui haussent leur niveau de jeu.
Donc, toi, tu soulignes la vue du stade ce soir. Presque un problème, finalement, un peu d'état d'esprit, c'est ça? C'est-à-dire que le stade Rennais qui met de l'intensité, du pressing depuis le début de la saison, tu le retrouves moins en ce moment?
Je l'ai moins retrouvé. Après, je suis aussi conscient. Enfin,
tu l'as retrouvé quand même dans les 20-25 premières minutes quand même.
C'est ce qu'il disait.
Une bonne entame et après, je pense qu'on a été aussi mis en difficulté par les Lillois. Mais on ouvre le score très tôt, 23 secondes de jeu, Et derrière, on a une ou deux occasions où on tue pas le match et on baisse son intensité.
C'est ce que je disais, Anthony, pendant le match. Moi, aujourd'hui, même s'il a de très bonnes stats, je suis un tout petit peu déçu, sans être sévère, par Amine Gouiri. Parce que Amine Gouiri, c'est quelqu'un en qui on a mis énormément d'espoir, hein, qui a montré de très très grandes choses, notamment dans son premier passage, enfin dans sa première période avec Nice notamment. Mais aujourd'hui, il a l'occasion de tuer le match, tu vois, sur cette balle où il frappe un peu sur le gardien. Bon, il y a une bonne sortie de Chevalier, ok. Mais malheureusement, au très haut niveau, bah, Lionel le sait encore mieux que nous, mais au très haut niveau, c'est des détails, c'est des moments clés dans le match. Et là, tu mets le 2-0 et Lille, tu leur mets la tête sous l'eau. Peut-être que derrière, tu leur mais un troisième. Mais à partir du moment où tu laisses ce genre d'équipe en vie,
est-ce que tu crois que c'est son
là
taf
où t'attends le Balotelli n'est plus là, mais c'est là où t'attends Bourigeaud, où t'attends Gouiri, qui sont quand même les deux leaders d'attaque aujourd'hui. C'est là qu'il faut marquer le deuxième but quand on a l'occasion.
C'est ça, Kevin. Mais c'est là où je mets un petit peu le bémol et j'avertis tout le temps les gens là-dessus. C'est-à-dire que je pense que Amine Gouiri, dans sa tête, ce n'est pas un buteur. C'est un mec qui est capable d'avoir des stats extraordinaires, de marquer des buts à partir du moment où il est détaché de cette mission de cette pression d'être buteur. Un buteur, ça réfléchit pas. Un buteur, ça marque des buts. Un Gouiri, il se met à réfléchir quand le buteur n'est plus là, parce que si le buteur n'est plus là, il se dit oh là là, faut pas que je rate la balle, faut pas que je rate le but, parce que le buteur il est pas là. Et quand tu penses qu'il faut pas rater le but, tout d'un coup le mec il se met à rater les buts. Et ces joueurs là ne sont pas des buteurs, ce sont des très bons joueurs à partir du moment où ils ont une complémentarité à côté, un joueur complémentaire et notamment un buteur. Et aujourd'hui, il s'est investi, on lui a donné ce rôle de buteur qui n'est pas c'est pas dans son ADN. Et ça m'étonne pas, personnellement, ça ne m'étonne pas qu'il soit en dedans de ce qu'on pourrait penser nous, mais personnellement, moi, je ne lui en veux pas parce que ce n'est pas du tout son rôle.
Anthony, tu lui en veux pas non plus?
Je rejoins qu'à moitié Lionel, c'est-à-dire que Amine Gouiri, pour moi, c'est un attaquant, c'est un mec qui doit marquer des buts. Là où je suis d'accord avec Lionel, c'est que peut-être que le poids de buteur numéro 1 est trop lourd à porter pour lui, peut-être, hein, je peux le comprendre. Je pense aussi qu'il est meilleur quand il a un autre attaquant avec lui.
Exactement.
On l'avait.
Et notamment un mec sur lequel il peut s'appuyer, un mec qui va prendre cette pression de mettre ces buts là.
C'était Désiré Doué ce soir qui n'est pas ce profil là évidemment.
Ben non.
Tu sens presque, enfin c'est vu du stade, t'as presque l'impression que par moment il est scellé, il fait pas le geste juste parce que justement il y a pas cette recherche de point d'appui ou voilà. Kalimuendo a du mal à se montrer. On a perdu Martin Terrier avec qui justement ça fonctionnait très bien. Et maintenant que Martin Terrier est blessé, Kalimuendo a été blessé, il a ce rôle de buteur numéro 1. Je mets quand même pas mal d'espoir sur Kartoko et Kambi. Je suis content de le voir revenir là. Ça fait deux matchs. Pour moi, il fait deux bonnes prestations. Et je suis content parce qu'ils l'ont un petit peu tué à Lyon facilement. Moi, j'ai toujours trouvé que ce joueur-là était un bon joueur. Et je suis content de le voir prendre du temps de jeu chez nous et retrouver son niveau.
Ouais, alors là pour le coup, là moi je te trouve un peu gentil avec Toko Ekambi. On n'a pas vu grand chose là.
Ouais, tu vas pas reprocher à un supporter d'être gentil pour une fois avec Karl Toko Ekambi.
Non, mais
attention, il vient d'arriver. Hein.
D'accord, mais on va dans l'analyse de ces matchs, on va pas prendre en compte son passé. Ça a été compliqué, mais là,
disons que le problème ce soir, c'est pas Karl Toko Ekambi.
Non, bien sûr.
Le souci, c'est un souci qui est collectif. Moi, j'ai envie de parler d'un joueur. Si on peut parler des joueurs qui se sont quand même démarqués, c'est Spence. On l'avait entreaperçu avec Tottenham, mais on découvre quand même ce soir vraiment ses qualités sur une plus longue période. Ce qu'il a apporté, honnêtement, c'est excellent dans la grande lignée des latéraux anglais qui, sur les 10 dernières années, sont clairement les meilleurs dans la formation de ce poste qui est un peu en difficulté sur le plan européen, voire mondial. Mais vraiment, eux, ils arrivent à former des latéraux, des joueurs rapides, des joueurs techniques, disait Thibaut pendant le match. Et franchement, il a montré de bonnes choses. Après, il y a toujours Arthur Théâtre, il y a Mandanda qui fait 2-3 arrêts importants. Mais c'est vrai que Santa Maria qui revient aussi plutôt bien. Maintenant, on n'a pas vu un grand Bourigeaud ce soir. Et Rennes aura besoin d'un grand Bourigeaud en l'absence de Martin Terrier jusqu'à la fin de saison.
Ouais, bah, c'est le souci, ouais. C'est le souci de Rennes, parce que on se rappelle en début de saison quand il y avait ni Bourigeau ni Terrier qui ne faisait, enfin qui n'arrivait pas à faire des grands matchs. Rennes était moribond en début de saison, voilà. Et puis tout d'un coup, Terrier est revenu, Bourigeau a suivi derrière et on a trouvé un grand Rennes. Là, Terrier n'est plus là et Bourigeau se perd. Et ben on retrouve le Rennes un petit peu du début de saison qui chahutait son football.
Rennes qui rejouera contre Toulouse dimanche prochain, dans une semaine, déplacement à Toulouse. Et puis il y aura ensuite le retour de la Ligue Europa le jeudi 16 février exactement. Déplacement face au Shakhtar Donetsk. Merci Anthony, tu es bientôt rentré à la maison, t'es rennais?
Oh non, j'ai encore une bonne heure de route, je rentre sur l'Orient.
Ah ok, bah alors t'es... Ah oui, l'ancien stade de la route de l'Orient, t'étais bien toi?
Je vis à côté de Lorient, donc j'ai une bonne heure à écart pour venir au Rosen Park à chaque fois que je viens au match.
Bon, bah bon retour.
Rentre bien.
Ouais, je n'ai pas réponse à cela. Je vais vous écouter tout le long de la route.
Salut Anthony.
Fais gaffe, t'as Siri qui te parle.
Ouais.
T'as entendu maman, Lionel.
La bise à Siri. Elle tiendra compagnie. Salut Anthony, bon retour.
Salut, je rappelle quand tu veux.
Salut Anthony.
Salut Anthony.
Tu sais Thibaut, juste vite fait pour t'expliquer, parce que ce que je t'ai dit tout à l'heure sur Guiri par exemple, je l'ai vécu. J'ai eu un président qui m'a dit, écoute, t'as un ailier gauche qui a marqué 11 buts. T'as un ailier droit qui a marqué 9 buts. On est le total des deux faisait 20 buts à la saison. Il me dit, on est à la moitié de saison, ces deux joueurs-là devraient nous amener 10 buts. Quand je fais le total, il me dit, oui, mais regarde, on en est qu'à 6. Ils sont vachement moins bons que ce qu'ils avaient avant. Et je lui dis, attends. J'ai dit, quand ils ont marqué 11 buts et 9 buts, ils avaient devant eux, ces deux joueurs-là, ils avaient un attaquant qui marquait 22 buts par saison. Notre attaquant, cette année, il n'a pas marqué de but. Il est parti, on l'a perdu. Et on n'a plus d'attaquant. Et tu demandes à ces joueurs-là de marquer des buts. Et dès qu'on a retrouvé un attaquant, tout de suite, l'attaquant, il a marqué des buts. Qu'est-ce qu'ont fait les autres? Ils ont enquillé derrière et ils sont retombés dans leur stat.
Donc, faut qu'il
c'est un exemple concret.
C'était Guivarch?
C'est ça le on a eu Guivarch, on a eu tout ça. Moi, c'est quand j'entraînais, c'était mon président qui me disait ça. Il me dit, on est en dessous des stats et tout. J'ai dit, non, les stats, on va les retrouver à partir du moment où ils auront un attaquant qui les libérera, de cette pression de marquer des buts, parce que un marqueur de but, un gardien de but et un buteur, ce sont deux mecs, essentiels avec des mentalités complètement différentes, des autres joueurs.
Merci Lio pour l'explication, l'expérience de Lionel Charbonnier.
Non, c'était des fois tout le monde comprend pas ça. Il y a beaucoup de gens qui sont cartésiens, mais le football c'est pas très cartésien malheureusement.
Je parlais d'ailier, d'attaquants qui marquent des buts, de gardiens de but. Le PSG au programme dans un instant.
Oh mon Dieu,
victoire. Oh carrément, victoire contre Toulouse.
Ah, on a parlé du gardien de but.
Ah oui, contre victoire contre Toulouse au Parc des Princes cet après-midi pour le Paris Saint-Germain. On vous attend au 32-16 parisien, toulousain, victoire 2-1. Avec tout pour Messi, on écoutera Galtier sur Messi, vous allez voir, assez étonnant cette surprise. Est-ce que l'entraîneur parisien a raison de faire ce tout pour Messi? On vous attend au 32-16 et puis vous continuez à commenter votre émission sur les réseaux sociaux, le Direct Studio notamment. Anthony écrit, le Stade Rennais a aucun mental et c'est comme ça depuis des années physiquement. Dès que l'équipe se fait manger, Rennes se fait dominer comme des enfants. Vianney écrit, on croit au tournant à chaque fois cette saison. Ah, ça c'est probablement un supporter lillois. 23h21, l'after continue en direct jusqu'à minuit avec Kevin Diaz et Lionel Charbonnier. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Thibaut Giangrande.
Avec Kevin Diaz et Lionel Charbonnier en direct jusqu'à minuit. Dans un instant, le Paris Saint-Germain au programme, victoire contre Toulouse cet après-midi, 2-1, supporters parisiens, on vous attend au 32-16. Vous allez entendre Christophe Galtier sur son plan de jeu autour de Lionel Messi. Et puis Toulousain également, 32-16. Hein, venez nous dire si vous avez des regrets après cette petite victoire parisienne. Tiens, juste avant, un mot du direct. Kevin Diaz avait un œil là sur le Chan. Le championnat d'Afrique des Nations avec les joueurs issus du continent. Et ce soir, c'est le Sénégal qui a battu l'Algérie au tir au but. Ouais. Avec un scénario assez dingue.
Ouais, parce que l'Algérie a dominé toute la prolongation et ensuite a eu même le pénalty décisif qu'ils ont malheureusement raté pour eux. Et derrière, le Sénégal en a profité pour gagner cette compétition.
On parlera d'ailleurs de foot étranger dans l'after ce soir un peu avant minuit. On sera avec Julien Laurent s'il s'est passé beaucoup de choses en Angleterre. D'ici là, l'OL au programme dans une dizaine de minutes. Lyon, bah, qui enchaîne pas mal, hein. C'était l'un des points de Lionel Charbonnier ce soir. Est-ce qu'il y a une petite remontée là? Est-ce qu'il y a une bonne période pour les Lyonnais? On vous attend au 32-16. Lyon qui a battu 3 cet après-midi. Mais d'abord, le Paris Saint-Germain et cette victoire contre Toulouse cet après-midi au Parc des Princes. 2-1. J'entends déjà Lionel souffler. 32-16 supporters parisiens.
Je dois pas être le seul.
Je voudrais qu'on écoute d'abord Christophe Galtier sur Lionel Messi. C'était en conférence de presse juste après cette victoire. Il est au micro d'Arthur Perrault.
Je demande à l'équipe de jouer pour Léo. Je demande à l'équipe de travailler pour Léo. Léo, on doit le libérer de certaines tâches. On doit compenser beaucoup de choses, mais on doit surtout faire en sorte de libérer l'espace dans lequel il est très à l'aise et lui donner le plus rapidement possible le ballon et après de créer du mouvement parce que quand il est à la baguette comme ça et qu'il dirige le jeu, il a le sens du dribble, le sens de la passe. Moi, je vais rien vous apprendre. Il a le sens du but.
Lionel Messi qui a marqué son 10e but en Ligue 1 aujourd'hui. Alors, est-ce que supporters parisiens, 32-16, vous comprenez? Est-ce que l'équipe doit jouer pour Messi? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? On entend ses arguments, Kevin et Lionel. Mais quand on regarde le match du jour, on peut pas dire que bon, Léo Messi il marque, ok, il met un très joli but, mais on a pas.
J'ai trouvé bon.
Ouais, on n'a pas un PSG, hein. Messi étincelant cet après-midi.
Moi, j'ai trouvé bon. Ouais. Moi, franchement, j'ai trouvé bon. Non, j'ai trouvé bon. J'ai trouvé. Alors, bien sûr, ça sera plus le Messi qu'on va retrouver, mais j'ai pas trouvé un Messi moins bon qu'au Mondial. J'ai trouvé donner des passes lumineuses dans les petits espaces où il y a que lui qui est capable de décaler des joueurs dans des où il y a à peine l'espace du ballon. Son cerveau a déjà vu que à tel moment il allait y avoir un espace et là il a mis. C'est il y a que du Messi. Non, moi je vois franchement je le trouve très bon. En plus il marque et heureusement qu'il marque. Franchement j'ai rien à dire là-dessus. Par contre, je ne vois pas si on veut que le groupe joue pour Messi, il faut défendre pour Messi, il faut défendre. Donc je m'attends à un PSG qui ressemble à l'équipe nationale de l'Argentine. Mais c'est pas le cas, c'est pas ce que je vois. En tout cas, parce que je m'attends à ça. Des mecs qui sont dévoués corps et âme pour Messi. Donc là, je m'attends pas à ça.
Que Mbappé et Neymar étaient pas là, donc c'est aussi pour ça.
Bien voilà. Sûr, le plan. Alors ça aussi, ça m'embête. Hein. Ça m'embête parce que quand Mbappé, Neymar, Messi sont là, on dit ah là là, c'est injouable. Les trois sont là, le PSG, ils peuvent pas jouer ensemble, c'est pas possible. Ces trois-là, ça va pas. Et puis quand il en manque un ou des deux, ou voire les deux, on dit oh là là, ben c'est dommage parce que le PSG va jouer sans Neymar et sans Mbappé. Franchement, ça va jamais. J'ai l'impression que d'entendre que le PSG a un effectif très très moyen. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui, honnêtement, hein, en analysant tout ce que j'ai vu, par contre, ce que je vois, c'est que ce PSG là joue toujours de la même manière, sans Mbappé, sans Neymar, dans les petits espaces. Ça joue tout le temps dans les petits espaces, mais je regrette les joueurs qui jouent à la place, qui remplacent les 11 là, sans Mbappé, sans Neymar, ils n'ont pas du tout les mêmes capacités d'élimination qu'un Neymar, qu'un Mbappé dans les grands espaces, qu'un Neymar dans les petits espaces, que donc les principes de jeu offensifs notamment, bah il faut les changer. Et là, le PSG joue pareil avec des joueurs différents, ils n'ont pas les mêmes qualités. On va dans le mur, c'est pas possible.
Le 4-4 de losange, à nouveau reconduit par Galtier, donc avec Messi et Kitiqué devant, Vitinha en 10 et derrière lui.
Kitiqué, il a pas joué.
Ruiz, Renato Sanchez qui est très vite sorti et Soler.
Malheureusement,
Kevin.
Le Paris Saint-Germain, c'est pas que c'est une équipe qui n'a pas un bon effectif, Lionel. Le Paris Saint-Germain, c'est un effectif qui a des joueurs qui sont difficiles à entraîner, voire impossibles dans certains cas. C'est surtout ça le souci.
Alors quand ils sont pas là, tu les entraînes pas, mais ça devient encore difficile.
Non, mais après c'est pas la question qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là.
La question, c'est ce que j'entends moi, droite à gauche, j'entends ils sont pas là, ça va pas, et ils sont là, ça va pas.
Non, on va dire.
Moi, c'est ce que j'entends. Je résume bêtement.
Quand ils sont là, il y a certains problèmes, et quand ils sont pas là, il y a d'autres problèmes. C'est plutôt ça le souci.
Donc c'est un effectif à problème.
Ça je pense que pour un entraîneur, c'est un effectif qui est difficile à entraîner, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu autant d'entraîneurs de très grande qualité sur ce banc depuis 10 ans maintenant, et que en tout cas en termes de Coupe d'Europe, il y en a pas un qui a encore réussi à atteindre.
Mais comment t'expliques justement Kevin, toi tu te mets entraîneur là, tu commences, si t'as pas les mêmes joueurs, comment t'expliques que tu mettes tout le temps les mêmes principes de jeu, sachant que les joueurs qui remplacent tes titulaires n'ont pas du tout les mêmes aptitudes? J'entendais Laurent Blanc très intelligemment, alors ça reste que Laurent Blanc, hein, c'est pas non plus Pep Guardiola ou quoi que ce soit, mais qui disait ce sont les aptitudes, les qualités de vos joueurs qui font que vous allez mettre tel et tel principe de jeu et que vous allez jouer dans telle et telle tactique. Mais là, les joueurs se succèdent et ne se ressemblent pas, mais par contre le jeu qu'on demande, enfin j'ai l'impression, en tout cas, est-ce que Galtier le demande ce jeu-là, ou est-ce qu'il a demandé quelque chose et il n'est pas écouté? Bah, je ne sais pas.
J'espère,
mais en tout cas ce que je vois,
qu'il demande autre chose que ce qu'on voit, parce que si
je sais pas, ben c'est ça. Mais en tout cas avec des joueurs différents, le jeu est complètement le même.
Oui, mais
moins efficace, bien évidemment.
Moi j'ai surtout l'impression que tant qu'on entendra des phrases comme l'équipe doit jouer pour un tel ou l'équipe doit jouer pour Lionel Messi, non, moi je fais partie d'une génération où on pense que même si tu es Lionel Messi, tu dois toujours jouer pour l'équipe. Et c'est pareil pour Ramos, c'est pareil pour Danilo Pereira, Kylian Mbappé ou Neymar.
Excuse-moi de te couper, mais t'as bien dit toi aussi, l'équipe doit jouer pour Mbappé.
Moi j'ai dit l'équipe doit jouer pour Mbappé.
Ben ouais, j'ai entendu ça.
Ah bon.
Il faut construire autour de Mbappé, il faut jouer pour Mbappé.
Il a picolé ce soir-là, je me rappelle.
Non, construire un effectif autour d'un joueur, c'est autre chose que jouer pour un joueur. Construire un effectif avec des joueurs qui vont pouvoir compléter les qualités d'un joueur, c'est autre chose que de lui dire qu'on va jouer pour toi, donc en gros, fais ton délire et nous, on va essayer de se dépatouiller autour. Moi, c'est pas le discours que je préfère. Après, le Paris Saint-Germain aujourd'hui, quand il te reste Messi sur le terrain, c'est normal de jouer avec ses qualités, mais le discours de Christophe Galtier, personnellement, c'est pas le discours que je préfère.
Les gars, on a beaucoup d'appels au 32-16.
T'entendras jamais, par exemple, Guardiola dire ça, par exemple.
Je voudrais qu'on accueille Haroun, supporter du Paris Saint-Germain au 32-16. Salut Haroun.
Salut les gars.
Toi,
salut
Haroun. D'accord salut avec Haroun. Galtier, donc avec Lionel, ou plutôt d'accord avec Kevin Diaz sur le fait de jouer pour Messi, quoi. On le laisse tranquille, il défend pas.
Pour Messi
et
ou
en gros,
pour un autre,
on lui passe la balle.
Alors moi, je suis encore plus, j'allais dire extrémiste là-dessus. Alors moi, Messi, Neymar, j'ai un gros problème avec eux. De par l'attitude qu'ils ont vis-à-vis des supporters, de par l'attitude qu'ils ont actuellement avec le club. Du club, oui, on pourra toujours en discuter. Là, aujourd'hui, bon, Messi marque son petit but, voilà, il fait sa petite balade. Il va continuer à faire, on va être sa petite séance d'entraînement, de sa muscu jusqu'à la prochaine compétition internationale. Voilà, donc moi, ça me gonfle. Moi, tout simplement, ça me gonfle. Ces mecs-là ne font pas plaisir. Voilà, il fait un bon match, globalement, Lionel, hein, c'est pas le problème. Néanmoins, quand ils viennent, ils se barrent. Ouais, salut pas les gars, salut pas les supporters. Il y en a rien à foutre, en fait, de tout le monde. Et là, il prend son chèque. Ok, pas de souci. Moi, ça me pose un problème. En tant que supporter parisien,
je comprends ça.
Qui kiffe ce club, ça me fait tellement mal. Moi, je vais être beaucoup plus extrême dans mes propos. S'il y a beaucoup de supporters parisiens qui m'écoutent et qui respectent ce club, qui aimons ce club, qui avons souffert avec ce club, avec toute son histoire, les gars, faisons des actes. Boycottez-les sur les réseaux sociaux, n'achetez plus leurs maillots, ne les applaudissez pas. Il faut qu'on les pousse à quitter notre club. Notre club, il va pourrir. S'ils arrivent à le faire prolonger, on est dans le caca. On ne pourra pas. Ce club-là est en train de mourir. Alors, j'ai pas envie de noircir l'histoire, mais évidemment qu'il y a de bonnes choses aujourd'hui. Moi, je vois un Achraf Hakimi après la Coupe du Monde. Mmh. C'est tellement plaisir parce qu'il est
bon. C'est vrai qu'il est excellent.
Et c'est l'homme en forme.
Que qu'a dit Maria l'année dernière, le boycotter très nettement sur son côté. Là, on voit que le mec, il prend du plaisir. C'est un super joueur, quoi. Il y a 6 mois, il était avec l'Inter, c'était un crack. Et pourquoi chez nous, il était pas...
Et Arnaud, voilà, j'aimerais t'entendre justement et profiter. C'était un sujet que je voulais aborder avec Lionel, qui l'a également. Bon, ouvrons le dossier de Donnarumma, qui, vous avez peut-être vu le but sur le coup franc de Van den Boomen et... Lionel, tu vas me dire ce que t'en penses.
Inadmissible.
Bon, voilà, carrément. Est-ce que avec Donnarumma... Paris peut vraiment viser grand. Est-ce que Paris peut gagner la Ligue des Champions avec Donnarumma dans le but, les gars?
Non.
Bah on avait un gardien qui était là, qui, quand il est arrivé, on a tout de suite senti. Et moi, je vais aller beaucoup plus loin, parce que j'en profite, je parle avec un champion du monde et un super footballeur. Voilà, j'en profite, les gars. Marquinhos, de mon avis personnel, le fait qu'il soit moyen, c'est parce qu'il sait qu'à côté, il avait Ramos qui est plutôt, pour pas dire médiocre, comme dirait Coach Corby, très moyen, et derrière un gardien qui est pas rassurant. Et je pense que le mec, il flippe.
Lionel Donnarumma, tu rejoins Haroun, Paris peut pas viser grand avec ce gardien?
Oui, je l'ai dit déjà, je sais plus, c'est la semaine dernière ou il y a 15 jours. Pour moi, ce n'est pas un gardien à la hauteur. C'était une opportunité de marché parce que il était sur le marché, qu'il était gratuit. Moi, gratuit en transfert. Attention, pas en salaire. Hein.
Oui, oui.
Donc, on a dit, malgré qu'il y avait quand même, alors il y avait une petite alerte avec Navas qui avait eu dans le Final Four, il avait eu quelques blessures, il avait du mal à terminer ses matchs et tout ça. On s'est dit, il faut quand même mettre un mec avec Navas. Il y a eu l'opportunité financière, entre guillemets, de Donnarumma, et on a pris Donnarumma. Mais si on regardait, si on s'interrogeait, je regarde beaucoup le Milan AC, parce que si je ne regarde pas, je ne mange pas de spaghettis le soir à la maison, donc je suis obligé de regarder avec ma femme le Milan AC et avec la famille. Mais franchement, ils étaient contents au Milan AC, ils étaient contents que Donnarumma parte. Aujourd'hui, ils me disent, mais comment vous avez fait pour prendre Donnarumma et laisser partir un mec comme Maignan? Le problème, il n'est pas de la valeur, la valeur intrinsèque du joueur. Le problème était une valeur financière, l'opportunité financière. Maintenant, si on regarde la valeur de Donnarumma aujourd'hui, le but qu'il prend, je te promets, hein, je l'ai mis sur les réseaux sociaux, ça m'est arrivé de prendre un but comme ça. J'ai ressenti ce que lui et moi, c'est encore pire. J'ai pris le but de mon côté, c'est-à-dire que quand tu places un mur, déjà le mur très mal placé par rapport à l'inclinaison du mur. Ouais. Un mur, ça se place, il y a une inclinaison qui doit aller du bonhomme et qui doit aller vers le qui doit être incliné vers le ballon. Là, le bonhomme, l'homme de base, il était bien placé. Par contre, le mur était incliné du côté du but. C'est pas normal. Déjà ça, l'inclinaison, elle est pas bonne. Parce que si l'inclinaison, elle avait été autre, le ballon ne serait jamais passé. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc c'est au gardien de diriger son mur. C'est lui le maître du mur. Si les mecs écoutent pas, ils prennent une buffée. Parce qu'ils doivent écouter. C'est un mec qui prend les décisions. Ça, c'est la première chose. Il s'est pas fait écouter ou alors il s'est pas placé un mur, je sais pas. Je pense qu'on l'a pas écouté. Deuxième chose, quand tu as un coup franc comme ça, t'as un grand côté et un petit côté. Le petit côté, c'est un but de hand. Il fait 2 mètres par deux, il fait à peine 2 mètres sur 2,44 mètres de haut. Tu t'imagines prendre la frappe qu'il a pris sur un but de hand, mais ouais.
Il attendait le côté,
ça n'existe pas.
Lui, hein.
Mais il est parti.
Clairement.
Mais ouais. Tu ne dois pas.
Déjà,
tu dois
pas
protéger.
Le ballon, déjà.
Tu dois. Mais il est derrière son mur.
Ouais.
Il est derrière son mur. Déjà, ça n'existe pas. Tu regardes pas derrière ton mur. En plus, le mur n'était pas prolongé. Donc, enfin. Il y a rien qui ne va. On est en train de parler là dans 10 jours. Le PSG va jouer contre les meilleures équipes d'Europe et notamment le Bayern Munich. Tu joues la Champions League. Tu dois être tout ça. C'est acquis. C'est une erreur que. Alors moi je suis pas à ce niveau-là. Il était grand temps que j'arrête. Il y a pas de souci. Mais c'est des erreurs que j'ai fait. J'ai fait cette erreur-là. J'ai pris une mine pleine lucarne de mon côté. Le lendemain matin, Giroud m'a dit viens voir. Il m'a convoqué. Il dit tu vois ça, c'était filmé. Il a repris les images, c'était même pas en première division, en Ligue 1, c'était avec l'équipe B. Il m'a convoqué dans son bureau, il m'a dit là, t'as un but de 2 mètres par 2, hors de question. Petit côté, c'est pour toi. Si tu prends un but là, ça sera de ta faute. C'est la première et dernière fois que tu fais cette connerie, sinon tu ne rejoueras plus. On m'a dit ça à 17 ans.
Ouais.
C'est inadmissible. Il en a 23, c'est un des meilleurs, il a été meilleur gardien d'Europe et tout. C'est inadmissible de faire des erreurs comme ça. Et là, alors après, à sa décharge, me posais même la question. Je me suis dit, mais après, il est capable de faire un arrêt à la dernière minute. Cet arrêt qu'il fait, il est très, très compliqué. Est-ce que, en fin de compte, il t'a fait gagner 2 points en faisant cet arrêt-là, ou il t'a mis un peu de caca dans le cerveau en ne faisant pas l'arrêt sur le. Et puis, pas que sur le match, hein, parce que, comme disait Kevin, je suis entièrement d'accord, les Marquinhos et compagnie, ils se disent derrière, comment il est mon gardien? Il est fait flipper. Ouais. Et ça te fait flipper tout ça. Ouais. Donc, moi. Pour moi, il n'a pas la valeur actuellement de joueur pour le PSG, pour les ambitions du PSG.
Et on le retrouvera dans le but probablement face à Marseille mercredi 21h10 en 8e de finale de Coupe de France.
Ça ne vaut que mon analyse, hein. Dieu, hein.
Ce sera sur RMC et d'ailleurs soirée exceptionnelle puisqu'on ira jusqu'à 1h30 du matin, l'after jusqu'à 1h30 et puis le retour de la Libre Antenne qui était là toute la Coupe du Monde de 1h30 à 1h30 avec Nico Villas.
Bonne nouvelle ça.
Aaron, merci beaucoup d'avoir.
Si les gars, je peux finir deux petits points rapides.
Très rapide, parce que j'ai beaucoup d'appels au 32-16.
Oui, vraiment très très rapide. Le petit qui est rentré, Zahir Emery, en 15 minutes, C'est 3 duels sur 4 gagnés, 2 dribbles sur 3 faits. Vitinha et Ruiz, ils ne l'ont pas fait. Mmh. Et pour finir, félicitations à Melion Tateranga pour la victoire en Algérie. Mmh. Félicitations les frérots, vous nous faites honneur.
Et ouais, le message est passé. Salut Haroun, merci.
Salut,
tu reviens quand bonne tu veux. Bonne soirée, bye bye.
On t'enverra un maillot de Messi.
Ou de Donnarumma, on verra.
Il l'a trouvé bon ce soir, il a dit.
23h40, dans quelques minutes. L'OL, les gars, l'Olympique Lyonnais, 8e. Bon, évidemment, classement toujours indigne, on va dire. Mais 3 matchs de suite sans défaite, ça supporter lyonnais. On vous attend au 32-16. Mais on a Alexis qui est là, supporter toulousain. Salut Alexis.
Salut Aster.
Et bienvenue salut à toi dans l'after. Toulouse qui est 12e après cette défaite, qui était en bonne forme. Hein. C'est la première défaite depuis quelques
matchs. 12e, encore 12e malgré les 4 victoires sur un mois plus un match nul. Ouais. Un peu frustrant, mais bon, on s'éloigne de la zone rouge qui est notre principal objectif. Donc c'est au moins, en tout cas, notre premier objectif. Donc c'est déjà un bon point.
Alexis, j'ai une question pour toi sur ce match. Bon, perdre au Parc des Princes 2-1, il n'y a aucune honte quand on est le TFC, bien sûr. Mais... quand tu vois ce PSG, ce qui a été fait par d'autres clubs ces dernières semaines, et ce qui est d'ailleurs souvent fait par Toulouse cette saison, est-ce qu'il n'y a pas un petit regret de se dire peut-être que le TFC aurait pu, je sais pas, faire un peu plus que...
Ah ben, pas un petit regret. Un immense regret, oui. Mais parce que par exemple, quand je vois la communication, alors j'ai rien contre la communication du TFC, ils font un très bon travail, mais quand je vois par exemple qu'ils disent la tête haute, par exemple, j'ai envie de dire, c'est quand même, faut quand même doser, parce que bon, comme tu as dit, effectivement, c'est le TFC au Parc des Princes, mais comme tu as appuyé aussi, moi j'ai vu le match avec un supporter du PSG, on a trouvé nous deux que c'était vraiment un très très petit pari, et je pense qu'on va pas trop nous contredire ce soir sur ça. Contre une équipe du TFC plutôt solidaire, mais qui n'a pas su bien jouer les coups, on va dire, qui a manqué un peu d'agressivité, donc de bonne agressivité. C'est ça que je reproche un peu ce soir. Et justement, quand on a une équipe comme ça de Paris en face, quand on voit toute la communication cette dernière semaine de Damien Comolli, le président qui veut gagner à tout prix contre un gros, le coach, les joueurs, Toulouse est quand même 3 points free face aux 10 premiers et 26 face aux 10 derniers. Là, on avait l'occasion, pour moi c'est vraiment l'occasion de le faire, avec un Paris qui est vraiment pas bien en ce moment mentalement, qui n'a pas Mbappé, enfin ni Neymar, ni Verratti, essayer de trouver un match, les gars, sur cette saison où une équipe a le luxe de jouer Paris sans Neymar, sans Mbappé, sans Verratti. Mmh. Nous, on a eu ce luxe-là et on n'a pas profité, donc ça m'énerve. Et au vu de la communication du club ces dernières années, pour faire monter le club au rang que la ville mérite, c'est-à-dire 4e ville de France, on va dire, trouver, essayer de chercher des places européennes, en tout cas le top 10, j'ai pas trouvé ça ce soir, quoi. J'ai pas trouvé un peu cette équipe qui veut aller chercher, qui veut se hisser en haut du tableau. Quoi.
Bah après, Alexis, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir le trouver dans les prochaines semaines, parce que le calendrier de Toulouse, il est dingue. Alors, il y a 8e de finale de Coupe de France mercredi contre Reims. Ensuite, réception de Rennes, réception de l'OM, déplacement à Reims. Et après, ça se calme un petit peu. Mais là, t'as un mois de février dingue pour le TFC.
Mais c'est ça, on a pris les points là où il fallait. Comme on dit, comme les supporters du TFC aiment bien dire, c'est-à-dire gagner notre championnat. Mais maintenant, voilà, il faut prendre les points contre les gros. Ce que le coach Montagné dit en conférence de presse tous les week-ends, comme il dit à chaque fois, gagner contre les gros cylindrés. On a eu l'occasion contre Paris, on ne l'a pas prise. Et pour moi, c'est vraiment, je le répète, c'était vraiment un petit pari qui n'avait pas mis d'envie, comme contre Reims, comme même contre Montpellier ou Angers. C'était assez faible pour moi en termes d'envie, d'engagement. Et je me dis, quand on va prendre Marseille à domicile, avec le rouleau compresseur qui est l'équipe de Marseille.
Un tiers du stade pour l'OM.
Alors le club essaye de prendre des décisions pour que le maximum de supporters de Toulouse, mais bon, on connaît Marseille à l'extérieur, c'est toujours
Alexis.
Compliqué. Oui.
Eh ben, merci beaucoup. On a beaucoup d'appels encore au 32-16.
Merci,
tu reviens quand tu veux dans l'after.
Merci à vous.
N'hésite pas, tu reviens quand tu veux. T'es le bienvenu. Je crois que c'était ta première fois, c'est ça?
C'était la première fois, oui.
Bon, ça s'est bien passé.
Pardon?
Ça s'est bien passé?
Oui, nickel. Ouais.
Bon, on recommence quand tu veux, alors, Alexis. À bientôt. Yes. Bonne soirée à toi. Merci. Salut Alexis. Merci de nous avoir appelé. L'after en direct jusqu'à minuit. Dans un instant, l'OL au programme. Barcola, Cherki, Cacré, Diomandé, Loukeba, ils étaient tous titulaires et l'OL s'est imposé cet après-midi. Est-ce que la jeunesse lyonnaise, c'est la solution? Lyonnais, je vous attends au 32-16 et puis on sera également en Angleterre avec Julien Laurence. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Avec Lionel Charbonnier, Kevin Diaz. Merci d'être là en ce samedi 4 février sur RMC. Merci d'être là d'ailleurs ce dimanche 5 si vous écoutez en podcast. À suivre l'Angleterre, Julien Laurence, il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui en première ligue entre les défaites d'Arsenal, de Liverpool, la victoire de United avec le pétage de cap de Casemiro. Julien sera là dans quelques minutes. Mais d'ici là, et vous commentez toujours l'émission sur le Direct Studio, vous nous appelez au 32-16 bien sûr. N'hésitez pas ce soir dans l'after. Lyon, une semaine à 7 points pour l'OL. La victoire 2-0 à Ajaccio, le match nul contre Brest 0-0 et la victoire contre 3-1 cet après-midi avec 3 buteurs formés au club aujourd'hui. Lacazette, Cherki et Barcola, beaucoup de joueurs, beaucoup de jeunes, une équipe jeune ce soir. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que cette jeunesse lyonnaise va redresser le club? Bon, on est encore loin, très très loin, mais Lionel, c'était l'un de tes points tout à l'heure.
Ouais.
Tu vois peut-être un frémissement avec cette OL, même si on a appris à pas s'emballer avec cette OL-là.
Ouais, c'est ça. Ouais, je reste toujours très frileux, hein, parce que on a souvent eu un Noël avec, enfin, sur courant alternatif. Mais là, j'ai l'impression que par rapport à ce qui avait été fait, notamment contre, c'était quoi, Brest, hein, il y a 3 jours. C'était Brest, le 0-0, pardon. Bah, il y avait du jeu, il y avait tout ça sur le plan du jeu. D'ailleurs, Lolo le disait, ça m'avait un petit peu, il disait, ouais, on a été bon, on n'a pas gagné, mais le jeu, c'est beaucoup mieux. J'ai dit, oui, mais c'est quand même mieux quand t'es Lyon, quand il y a les victoires, je me suis dit quand même. Et puis là, aujourd'hui, il y a eu le jeu, tout n'a pas été nickel, tout n'a pas été, mais c'était beaucoup mieux. Mais par contre, il y avait eu, beaucoup plus de présence et en plus beaucoup plus de réalisme de la présence, je parle devant le but. J'ai eu l'impression au début du match que Lyon retombait dans ses travers, qu'ils avaient les occasions mais il y avait personne à la reprise, il y avait pas le but, n'était pas, les 16 mètres adverses n'étaient pas quadrillés, on passait bien sur les côtés, il y avait pas de souci, les ballons arrivaient ou n'arrivaient pas dans la zone de vérité, mais voilà, il y avait pas, il manquait ce frémissement, cette dangerosité qu'il faut, ce danger qu'il faut dans les 16 mètres. Il manquait de ça. Puis tout d'un coup, c'est arrivé et il y a eu ce but qui est avec moi, j'ai trouvé Cacré très très bon, le penant très très bon. Je crois que le but arrive du côté de Cacré, il me semble, et il me semble que c'est Lacazette qui vient comme par hasard au premier poteau et puis derrière, il y a le jeune Barcola qui est là, qui est au second poteau. Voilà, ils étaient que deux mais c'était bien quadrillé. C'est la première fois qu'ils étaient deux à la réception. Et c'est le jeune Barcola qui marque ce premier but. Voilà, plus de monde, plus de réalisme avec un Cacré qui prend des un Cherki pardon qui prend des initiatives, qui devient un peu plus percutant et surtout décisif. Parce que dans ce qu'il faisait, il faisait des bons trucs, mais c'était jamais décisif. Là, il a eu des prises de décision pour essayer de faire de marquer le but, pour essayer de, et ça c'est quelque chose que je ne voyais pas jusqu'à maintenant. Je trouvais un Cherki plutôt pour faire jouer les autres et j'ai eu aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression qu'il joue non seulement pour faire jouer les autres, mais en plus il a une autre arme, c'est qu'il essaie de marquer et donc à partir de là, eh ben il va trouver son jeu va prendre de l'amplitude, il va être nettement meilleur. Et si ces mecs là se mettent à bien jouer et à être décisifs, je pense que Lyon, à partir du moment où ils auront cette attitude là, c'est la bonne attitude, il faut qu'ils continuent comme ça. Attention, ne pas, ce que je dis là, c'est encore j'ai toujours peur parce oui. que c'est parce toujours que c'est un Lyon sur courant parce alternatif.
32-16 ouais. Supporters lyonnais, si vous voulez réagir, est-ce que cette jeunesse lyonnaise, est-ce que là cette semaine peut-être valide timidement la stratégie du mercato là de mettre un coup de balai dans le vestiaire et de faire jouer peut-être un peu plus les jeunes? Kevin, ton avis?
Écoute, moi je vais pas te le cacher, moi à Lyon ça me fait pas rêver. Hein. Moi je regarde un match de Lyon, je passe pas un grand moment. Hein. J'ai pas l'impression de gagner une heure et demie de football par rapport à certaines équipes de Ligue 1. Mais bon, on va leur laisser du temps. Après c'est vrai que c'est sympa.
Tu vois pas une évolution
Kevin? Si, si, ouais, on peut considérer qu'il y a une évolution, que ça va dans le bon sens, mais moi, il y a un joueur que j'aime bien, c'est Barcola, parce qu'il dégage de la fraîcheur, il joue simple, il joue vers l'avant. J'aime bien aussi Le Penant, parce que c'est un joueur, on voit bien qu'il a des qualités, même s'il est encore...
Cacré était bon ce soir.
Il est encore très très jeune, ouais. Après, Cacré, c'est un joueur, j'en attends beaucoup plus, donc il retrouve petit à petit un niveau correct, mais bon, ça fait 90 minutes, donc, et encore même pas, ce qu'il est sorti avant, mais j'aime bien par contre le fait de revoir Tolisso, revoir Corentin Tolisso qui peut enchaîner les matchs sans
se blesser. J'ai trouvé très bien Tolisso.
Ouais, c'est vrai. Je trouve que Lovren, il apporte clairement quelque chose défensivement. Maintenant, moi, avant de faire des compliments à cette équipe lyonnaise, j'en attends encore beaucoup plus, parce que pour moi, c'est une équipe de milieu de tableau. Ils sont à leur place.
Ils sont huitième, là, provisoirement, voilà, en attendant la suite.
Ils sont pour l'instant à leur place. Il va falloir qu'ils montent vraiment en puissance. J'en ai pas encore parlé, mais ils ont fait signer Amin Sarr qui est pas un grand joueur, peut-être pas un grand joueur en devenir, mais en tout cas qui est un joueur qui a du potentiel.
Il a joué une demi-heure là ce soir,
qui a fait, bon, il a pas fait grand chose d'ailleurs pour l'instant, mais il va falloir lui laisser du temps. Mais c'est un joueur qui est vif, qui est explosif, qui est collectif aussi devant le but, qui s'est marqué, qui s'est donné des bons ballons, que j'ai pas mal suivi en Eredivisie, qui va pouvoir faire du bien dans un profil Toko Ekambi, mais peut-être quand même un petit peu plus adroit et surtout avec une excellente mentalité. Donc en tout cas, c'est ce qu'il était jusque là. On verra s'il va pas s'adapter à la méthode lyonnaise un peu trop vite, mais on n'espère pas. Donc voilà, moi j'attends, il y a du mieux bien sûr, mais j'attends encore beaucoup plus de cette équipe lyonnaise.
Écoutez, Laurent Blanc, sur l'une des satisfactions en particulier aujourd'hui, au cours de cette victoire 3-1.
Ça fait deux matchs, on met beaucoup, beaucoup d'intensité. Physiquement, j'espère que c'est le travail qui est en train de payer, que l'on fait depuis un certain temps. Et puis, bon, on va pas se leurrer non plus. Quand tu fais des bons résultats, tout va mieux, quoi. Tout va mieux. Tout d'un coup, tu ressens moins la fatigue, tu as moins de courbatures, tu as beaucoup moins de choses, quoi.
Laurent Blanc avec le sourire, hein, au micro de Fred Joly.
J'enlèverais un beaucoup quand même.
Ouais, mais t'es pas d'accord avec lui?
Beaucoup, beaucoup d'intensité, ça me paraît quand même un peu beaucoup, en effet.
Il partait très loin quand même.
Plus d'intensité, disons.
Bon. Ouais, il a dit il y a plus d'intensité. Il y a beaucoup plus d'intensité. C'est-à-dire qu'il partait de zéro. C'est donc.
On est d'accord.
Et là, c'est une grosse semaine qui arrive pour l'OL. Mercredi 18h15, le 8e de finale de Coupe de France contre Lille. Et dimanche prochain 20h45, réception de Lens au Groupama Stadium.
Là, on va savoir.
Et là, peut-être. 23h53, les gars. Julien Laurent, c'est là. Salut, Julien.
Salut à tous.
Salut, Julien.
Quelle journée, Julien. D'ailleurs, est-ce que ce matin on s'attendait à cette journée? Probablement pas. Une journée où Arsenal s'incline à Everton 1-0. Une journée où Liverpool prend 3-0 à Wolverhampton.
Incroyable, Liverpool.
Et où United s'impose contre Crystal Palace avec un Casemiro qui pète un câble. Voilà, on a un tiercé assez incroyable aujourd'hui là en PL.
Ouais, encore une belle journée de Première Ligue, c'est sûr, tu l'as bien résumé par les résultats. On va commencer par United parce que il y a le carton rouge de Casemiro, c'est un peu le débat ici en Angleterre ce soir. Est-ce que c'était mérité ou pas? Certains disent que, alors certes, il attrape par la gorge effectivement Hughes, mais certains disent que c'est pas il y a rien de violent, que c'est plus peut-être pour séparer plus qu'autre chose. C'est vrai, sur son visage, il a pas l'air du tout d'être violent, Casemiro. Donc voilà, Ten Hag était pas content, les supporters de United non plus, pas content. Au final, ça a pas d'incidence parce qu'il menait 2-0 avant le carton rouge. Palace est revenu à 2-1, mais United a gardé la victoire. Et d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, le deuxième but de Manchester, le but de Rashford, sur un mouvement collectif absolument extraordinaire, où tu repars de derrière, ça construit, ça va à droite, à gauche, ça repasse par le milieu, ça finit par un centre de Shaw et une reprise de Rashford dans les 6 mètres. C'est un bijou de but collectif.
T'en as sûrement parlé, hein, de Marcus Rashford, mais il est, pendant un moment, moi je le plaçais, hein, dans la même ligne des Haaland, d'Mbappé, etc. Bon, peut-être un peu derrière, mais pas si loin. Mais il est en train de revenir à un sacré niveau quand même, notre ami Marcus.
Je pense qu'il a jamais été aussi fort. Même la première saison, même les saisons où il a été très bon, Kev, je pense qu'il a jamais été aussi fort. Ça fait 11 buts en 13 matchs. Ça fait 13 victoires de suite à Old Trafford, toutes compétitions confondues pour United. C'était plus arrivé depuis 2011, quand Sir Alex était encore là. Et là, 2011, c'est l'équipe exceptionnelle qui perdra certes en finale de Ligue des Champions. Mais voilà, on parle du très très grand United. Donc voilà, on ressouligne encore une fois le très bon travail que Ten Hag fait et que cette équipe de United est en train de faire sur les cendres, entre guillemets, de ce qu'on avait pu voir avant avec Solskjaer et Rangnick.
Et d'ailleurs, j'ai Anthony qui écrit sur le Direct Studio, fan de United, quel immense match de United en termes de caractère. Et si Ten Hag était le successeur de Fergie, who knows, écrit-il. Je crois, Anthony, je suis nul en anglais, mais qu'on dit who knows, n'est-ce pas?
Ah ouais, il a oublié le S, mais c'était l'excitation, c'est pas grave.
Ah, c'est vrai, voilà. Ça passe. Bon, la surprise du jour, Everton, 18e, ce soir, quitte Arsenal. En fait, Arsenal, depuis le début de la saison, c'est vrai que c'est la bonne surprise. On est toujours sur le qui-vive. On se dit à chaque fois que ça va s'arrêter, et puis non. Bon. Est-ce que dans la prestation, bon, j'ai pas vu le match, moi. Est-ce qu'il y a de quoi être inquiet? Est-ce que c'est un braquage? C'est comment?
Non, c'était en fait finalement pour Everton avec le nouvel entraîneur Sean Dyche, une équipe qui avait vraiment besoin de points à domicile en plus à Goodison Park. C'était la performance qu'on attendait avec beaucoup de caractère, beaucoup de très physique. Ils avaient aligné un milieu à trois, Doucouré, Gueye et Onana qui est très athlétique, qui a beaucoup gêné Arsenal au milieu de terrain parce qu'ils ont été justement très athlétiques, très intenses, très physiques aussi. Et on a vu un très mauvais Martin Odegaard qui est le maître à jouer de cette équipe d'Arsenal qui pour la première fois de la saison peut-être a vraiment été muselé, contenu, très bien marqué par le milieu de terrain d'Everton. Il marque un but sur corner, un but sur coup de pied arrêté. Et c'est vrai qu'ils ont mis beaucoup de pression sur l'équipe d'Arsenal qui n'était pas dedans, n'était pas là pour la bagarre. Et finalement, c'est créé, même s'ils ont eu 70% de la possession, mais ils se sont pas créés, à part peut-être un centre à un moment de Trossard, je crois, ou de Martinelli pour Odegaard, ou de Nketiah pour Odegaard. C'est la meilleure occasion quasiment qu'ils ont eu. Il y a une frappe de Trossard après, mais c'est tout, quoi. Et donc c'est vrai qu'Everton a très bien défendu, Arsenal n'était pas dedans et voilà, on attendra maintenant demain le match de City à Tottenham pour voir si cette défaite elle aura beaucoup de conséquences ou pas.
5 points d'avance toujours.
Petit déclat, Julien, non, d'Arteta sur le fait que c'est plus facile d'être un entraîneur. J'ai lu ça, mais c'était en néerlandais, j'ai lu ça assez rapidement. Il n'a pas déclaré un truc comme ça sur le fait que c'est plus facile d'être entraîneur quand l'équipe elle gagne. En gros, il a pas voulu critiquer son équipe, non, il y a pas eu ça.
Ouais, ce soir, mais enfin, ils étaient d'accord sur le fait qu'ils étaient, tu vois, ils étaient pas dedans, ils étaient pas prêts, ils ont pas eu leur l'intensité habituelle. Ils étaient, voilà, je sais pas si c'est parce que le match avait lieu donc à midi 30 chez nous un samedi. Je sais pas pourquoi. Peut-être que voilà, l'atmosphère adverse, l'intensité adverse, a fait que ça les a fait déjouer. Mais c'est vrai que c'était je pense la moins bonne performance de la saison, seulement la deuxième défaite. Mais c'est vrai qu'ils ont vraiment pas bien joué.
On est pris par le temps en 10 secondes. Liverpool balayé par Wolverhampton 3-0. Bon, je dis c'était une claque, mais en fait cette saison c'est incroyable. Ouais, c'est 10e, hein. Liverpool qui est rentré dans le rang de manière spectaculaire.
Ouais, et le plus inquiétant, alors ils ont eu des occasions, hein. ils ont pas si mal joué que ça, mais c'est vrai qu'ils prennent des buts de casquette, ils prennent 2 buts dans le premier quart d'heure. C'était un début de match catastrophique, horrible. Ce qui m'inquiète le plus, moi, c'est que Klopp à la fin dit voilà, je comprends pas, je sais pas, je peux pas vous expliquer pourquoi. Ouais. Et si maintenant Klopp a pas ni les raisons, ni les solutions, ni les questions, ni les réponses, je pense que ça peut être encore 4 mois qui arrivent, très très compliqué. Ils vont jouer Newcastle, ils vont jouer le Real Madrid, ils vont jouer Everton, le derby le week-end prochain, ça peut aller de pire en pire même pour Liverpool.
Coup de sifflet final, merci beaucoup Julien, bonne nuit à toi.
Merci les gars, à lundi dans les drôles de dames.
Exactement, lundi, les drôles de dames, génération after, comme tous les lundis de 20h à 22h autour de Nico Jamin, Kevin Diaz, Lionel Charbonnier, merci les gars.
Salut messieurs.
Salut Thibaut, salut Kevin.
Pour la semaine prochaine, merci à Toto, à Roxane, merci surtout à vous d'avoir été là à l'écoute sur le Direct Studio 32-16. L'after revient demain soir autour du match Marseille-Nice. Bonne nuit l'équipe, ciao.
RMC, l'after foot.